Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Benjamin Muller, bienvenue dans le podcast dont tout le monde parle, ou presque, le podcast des maternelles, c'est parti. Le podcast des maternelles, le podcast de France Télévisions, où vous avez la possibilité d'entendre ou de réentendre l'un des moments forts et phares de l'émission du jour. Et ce matin, Agathe Le Caron recevait Manon, Manon qui est la maman de Samuel, Samuel qui a 8 mois, et vous allez l'entendre une histoire incroyable, très forte. Manon qui avait dans un premier temps accouché donc de Samuel sous X avant de se rétracter très rapidement. Vous savez que la loi permet aux femmes qui accouchent sous X de se rétracter durant un laps de temps de 2 mois. Ce qu'a donc fait Manon qui va donc raconter son témoignage, et nous serons juste après avec le docteur Guetta qui est pédopsychiatre à la Pitié Salpêtrière, qui nous aidera à comprendre les ressorts de ce qui se joue dans cette décision si douloureuse. C'est parti.
Le cœur a ses raisons que la raison ne connaît pas. Cette maxime prend tout son sens avec votre histoire, Manon. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Il y a 9 mois, vous avez mis au monde un petit garçon qui s'appelle Samuel. Il n'était pas du tout prévu dans votre vie. Vous avez dans un premier temps choisi d'accoucher sous X et de le confier à l'adoption. Et puis, quelques jours après, en fait, vous avez regretté votre décision. Vous avez décidé de retrouver votre bébé. Et aujourd'hui, vous apprenez jour après jour à devenir maman. C'est un des sujets les plus tabous de la maternité qu'on va évoquer ce matin, mais tellement important pour les femmes qui l'ont vécu, qui aujourd'hui nous regardent, culpabilisent. On va raconter un petit peu votre histoire. On va revenir en arrière. Donc, il y a 9 mois, vous avez 25 ans. Vous êtes en couple avec Olivier depuis 3 ans. Vous n'aviez pas du tout de projet d'avoir d'enfants. Pour quelle raison ? Est-ce que c'était un choix ou c'est juste que vous n'y pensiez pas ?
Alors avec Olivier, en fait, on a 17 ans d'écart. Il a 43 ans, donc moi j'ai 25. Il a déjà une fille de 13 ans qui s'appelle Betsabé. Donc c'était pas du tout dans nos projets vis-à-vis de notre couple. Et moi, il faut dire aussi que j'ai perdu ma maman il y a 9 mois. J'ai changé de région, j'avais aussi changé de boulot. Donc professionnellement parlant, c'était aussi énormément de changements. Donc mon déracinement, tout ça, émotionnellement, j'étais pas du tout prête à être parent. J'avais déjà du mal à m'occuper de moi, alors m'occuper d'un petit bonhomme, c'était compliqué.
Oui, c'est-à-dire que là, vous êtes en deuil.
En deuil,
vous êtes totalement déracinée. Il y a toute une vie à reconstruire.
Ma famille qui n'est pas ici.
Donc, c'était vraiment pas le bon moment. Dans la nuit du vendredi au samedi 4 septembre 2021, vous avez des douleurs violentes, vous souffrez de vomissements. Donc, vous allez aux urgences, vous vous dites, ben voilà, je souffre sûrement d'une intoxication alimentaire. Et là, que se passe-t-il à l'hôpital, alors ?
Alors, j'arrive aux urgences généralistes de l'hôpital. On me met en chambre, on me met une perfusion pour calmer la douleur qui était vraiment intense. On me dit, on me fait partir sur des coliques néphrétiques ou peut-être une intoxication alimentaire au début. On me fait faire une prise de sang et on me laisse tout seul dans la chambre en attendant que les médicaments fassent effet. Et puis tout d'un coup, peut-être 2 minutes après, pouf, plein d'eau partout. Au premier abord, en fait, j'ai l'impression de m'être fait pipi dessus, mais je perds les eaux, en fait. Donc j'appelle le médecin, enfin sur la petite sonnette. Le médecin arrive, pouf, je vois sa mine déconfite, elle me dit comme ça. Mais on voit la tête et puis pouf, après elle part.
Mais quand vous entendez on voit la tête, qu'est-ce que vous vous dites ?
Ah, moi, de descendre d'organe tout de suite, on voit la tête de l'utérus, on voit la tête...
Ah, vous pensez à un organe ?
Oui, à un organe. Un organe, je...
Vous pouvez pas imaginer que c'est un bébé ?
Ah non, du tout. Bah, déjà, de premier abord, non, on voit la tête, non. Mmh. Non. Et du coup, en fait, c'est parti tellement vite, en fait, après que ni une ni deux, toute l'équipe des urgences m'a pris, m'a emmenée pour aller en salle de naissance, sans forcément me prévenir, sans forcément m'en parler, sans forcément verbaliser les choses. Donc, en arrivant pour aller dans la salle de naissance, on va dans l'ascenseur. Et dans l'ascenseur, en fait, j'accouche. J'accouche de Samuel.
Donc, vous faites ce qu'on appelle un déni total.
Total.
Quand on dit total, ça veut dire que c'est pendant toute la durée de la grossesse.
Jusqu'à l'accouchement.
Et c'est vrai que les gens ont du mal à croire au déni de grossesse, à s'imaginer ce que ça fait. On va montrer une photo de vous. C'est 2 semaines avant d'accoucher. Et là, regardez, il n'y a pas...
Pas une
mais
forme.
C'est indétectable. Il n'y a pas un pet de ventre. Là, vous êtes à terme sur la photo qu'on voit en ce moment. Donc, c'est un énorme choc pour vous. Vous ne pouvez pas vous imaginer que vous êtes enceinte. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là, alors ?
Alors là, c'est grosse sidération. Mmh. J'ai du mal à accepter que c'est un bébé, que j'ai accouché déjà. Donc, on me propose l'accouchement sous X. En voyant ma réaction, les soignants ont vu qu'effectivement, il y avait un blocage. Donc, on me propose l'accouchement sous X. Je suis toujours tout seul, Olivier n'est pas là. Donc, j'accepte. L'accouchement sous X.
Vous ne l'avez pas contacté à ce moment-là encore ? Vous lui avez pas
Non,
raconté.
Du tout, ça s'est joué en un quart d'heure, en fait. Le temps que j'arrive à l'hôpital, Olivier, vu, avec le Covid, tout ça, ils ont proposé de repartir à la maison. On avait notre belle-fille, ma belle-fille à la maison aussi. Donc, il est parti rejoindre la belle-fille, pensant que c'était une intoxication alimentaire, en fait, que ce n'était pas très grave, en fait, pour lui. Et du coup, en fait, les soignants l'ont prévenu par téléphone, après l'accouchement, et Olivier est revenu... Peut-être
quand vous avez accouché, vous nous avez dit en préparant cette émission, 2 heures après, c'est comme si c'était rien passé physiquement.
Oui. 2 heures après l'accouchement, j'étais avec Olivier dehors en train de fumer une cigarette. En fait, je descendais à pied parce que j'ai été recousue, j'ai une grosse déchirure et je ne ressentais pas de douleur, j'avais plus mal. Donc,
Comme si vous étiez en dissociation.
C'est ça. Mon corps et mon esprit, en fait, faisaient deux. J'étais là, mais j'étais pas là. J'étais plus là, en fait, mentalement.
Donc, le personnel médical vous a proposé un accouchement sous X en voyant, donc, effectivement, que vous étiez dans cet état-là, de dissociation, de choc aussi. Vous vous sentiez pas capable de prendre en charge ce bébé ?
Non, parce que, pour ma part, un bébé doit être désiré. Ça implique énormément de choses, notamment financièrement, psychologiquement... et même d'organisation de vie de couple, de vie familiale. Vu que ce n'était pas dans nos projets, c'était impensable pour moi.
Et Olivier, il était aussi sidéré que vous ?
Non, Olivier, il s'inquiétait pour moi, parce que j'étais dans une passe assez compliquée avec le décès de ma maman, mon déracinement, enfin, tout ça. Donc il s'inquiétait pour moi, Olivier, peu importe le choix que je faisais, c'était moi. Il fallait qu'on soit sûr que moi, je sois capable, en fait. Et je me sentais terriblement, en fait, incapable... et beaucoup de culpabilité et de honte, en fait, de ne pas avoir pu cerner, en fait, les petites choses de la grossesse et d'avoir fumé, bu de l'alcool, pas fait attention à moi, en fait, pendant ces 9 mois, en fait.
Vous en vouliez de ne pas avoir compris que vous étiez enceinte. Oui, c'est ça, c'est ce qui revient souvent dans les témoignages sur les dénis.
J'avais
peur
de lui faire du mal, en fait, de lui avoir fait beaucoup de mal.
Les médecins vous ont rassuré là-dessus ?
Oui, ils m'ont rassuré. Mais il était petit, en fait. Moi, l'image que j'ai de l'accouchement, c'est un très tout petit bébé. Et dans ma tête, à ce moment-là, je lui avais fait du mal. Donc, pour moi, l'accouchement sous X, c'était une manière aussi de me laisser un petit moment de répit aussi, de comprendre et aussi de mettre ma culpabilité de côté. Quoi.
C'est ça. Vous lui avez laissé une petite lettre ?
Oui. Oui, alors dans la loi française, en fait, il y a le CNAOP quand on accouche sous X. Et depuis 2002, on peut laisser un pli fermé. Donc moi, je lui ai laissé un pli fermé, lui expliquant en fait ce qui s'était passé et pourquoi en fait j'avais décidé l'accouchement sous X. Car je me sentais vraiment incapable d'accueillir en fait l'amour et puis lui donner son amour, en fait. Vu que j'avais déjà perdu mon amour maternel à moi. J'étais incapable de pouvoir retranscrire, en fait, tout ça.
Oui, c'est ça, c'est quand vous étiez dans une période de deuil, puis tout à coup, il y a une espèce de pulsion de vie.
De vie avec la mort, voilà, c'est ça. Avec la mort, c'était compliqué, puis ça s'est passé tellement vite que j'ai même pas pu verbaliser, ni même être préparée à quoi que ce soit.
Alors qu'on sait bien qu'il faut bien les 9 mois pour se préparer. Hein. Est-ce que vous avez, parce que vous dites, je l'ai entreaperçu, j'ai vu que c'était un petit bébé, est-ce que vous avez demandé à le voir quand même avant de partir à la maternité ?
Non.
De la maternité ?
Moi, personnellement, non, je n'ai pas demandé à le voir, parce que je savais que si j'allais le voir, en fait, j'allais m'attacher. Donc, j'allais l'aimer. Et je ne voulais pas m'autoriser à l'aimer, en fait. C'est mon compagnon. C'est mon compagnon, le lundi, en fait, à la sortie de la maternité, qui m'a dit, mais... c'est une partie de nous, en fait. On ne peut pas, par respect, on ne peut pas ne pas le voir. Du coup, enfin, dans l'élan, tout ça, en fait, je lui ai dit oui, tu as raison. Et c'est vrai qu'il avait raison, en fait. Du coup, on a été le voir en néonat, puisqu'il était en néonat, vu qu'il avait un retard de croissance in utérin. On a été le voir dans son box, donc sacrée ambiance en néonat aussi, donc assez compliqué avec les petits bruits, les lumières, tout ça. Et puis, il avait son box à part. Donc Samuel, avant de s'appeler Samuel, il s'appelait Benjamin. C'est les soignants qui l'ont nommé,
baptisé, oui.
Parce que j'en étais incapable. Et du coup, je vois le petit box de Benjamin et on rentre. Et puis moi, je me sens envahir de plein de choses. Je vois le petit bonhomme dans sa couveuse. Et là, ça me fait un touc, un coup de je sais pas quoi. Mais je sais que ce moment-là, il a été précurseur.
Alors après, vous êtes, c'est la première rencontre avec votre enfant.
C'est
et ça. Imagine...
C'est plutôt un bébé, celui que j'ai mis au monde à ce moment-là, en fait. Mmh.
C'est pas votre enfant,
non, pas tout de suite.
Vous avez évidemment, comment créer le lien avec le choc que
c'est
vous avez vécu, bien sûr.
C'est ça.
Comment ça s'est passé le retour à la maison? Parce qu'après ce choc-là, comment ça se passe les jours qui suivent?
Alors les jours qui suivent, le retour à la maison, ça s'est fait en fin d'après-midi. J'avais hâte de retrouver un univers qui m'était familier, que je puisse aussi reprendre une pseudo-vie normale. Cependant, dans la soirée, on a fait comme si de rien n'était. Et puis, arrive la nuit où on ferme les lumières, et puis tout de suite, je le revois. Mmh. Il est dans sa couveuse.
C'est-à-dire qu'en fait, vous vouliez évidemment retrouver la vie d'avant.
La vie d'avant.
Mais ce n'était plus la vie d'avant, forcément. Quatre jours après la naissance de Samuel, vous avez décidé de revenir sur votre décision et de reconnaître votre bébé. C'est parce que justement, vous n'arriviez pas à vous détacher de cette image de lui. Qu'est-ce qui s'est passé dans votre tête?
Alors, quand je suis sortie de l'hôpital, il me manquait quelque chose. J'arrêtais pas de dire à mon compagnon, ils m'ont coupé une patte, ils m'ont coupé une jambe. Il y a quelque chose, j'ai perdu quelque chose. Et en fait, ce quelque chose, c'était mon fils, quoi.
Ouais. Et donc, vous l'avez récupéré?
Oui.
Au début, j'imagine que ça a dû être aussi un petit peu compliqué.
Oui, ça se fait en douceur. Donc, il y a un protocole avec l'éducatrice du service de l'adoption du conseil départemental qui était là.
Donc vous êtes accompagnée,
Accompagnée, oui. Toujours accompagnée pour m'éviter un choc, éviter un choc aussi à Samuel qui ressentait aussi beaucoup de choses. Il était un peu en veille pendant ces moments-là, Samuel. Ah. Donc, pour éviter un choc, tout ça, donc ça s'est fait en douceur, en premier. Puis, elle nous a suivis tout le long du service, qu'il était hospitalisé, quoi.
Et aujourd'hui, Manon, vous vous sentez maman?
Oui. Seulement, depuis quelques semaines, je me sens maman. Parce qu'on me dit qu'il faut 9 mois pour faire un bébé. Et là, il va avoir 9 mois et je me sens clairement maman, en fait. Mmh. Je m'inquiète pour rien, en fait. C'est bon.
C'est normal.
C'est bon, ça y est, je m'inquiète pour rien. Donc, je pense que j'ai clairement signifié que j'étais sa maman et que je prends ce rôle-là avec plaisir, quoi.
Docteur Michel Guetta, bonjour.
Michel, bonjour.
Qu'est-ce que j'ai dit, Michel?
Michel, oui.
Oui, c'est
Michel.
Je vous ai un peu vieilli là sur le coup, sur le prénom. C'est pas cool. Michel, c'est moi qui vois plus clair parce que je refuse de mettre des lunettes, mais qu'est-ce que vous voulez, j'ai l'âge que j'ai. Vous êtes pédopsychiatre à la Pitié-Salpêtrière. On l'a vu, la loi prévoit 2 mois aux femmes qui accouchent sous X pour revenir sur leur décision, pour se rétracter, retrouver leur enfant. Est-ce que c'est important de laisser ce temps? Quand on est dans un cas comme celui de Manon, de déni de grossesse totale, c'est-à-dire 9 mois sans imaginer une seconde qu'on est enceinte.
Oui, ça me semble absolument important. Vous parlez du déni total de grossesse, donc ça me semble évident et je pense que le témoignage de Manon est très clair pour évoquer l'intérêt de ce temps. Mais je pense que même dans les cas qui sont des cas qui ne sont pas des dénis de grossesse, c'est aussi important parce que vous avez parfois des femmes qui se font une certaine construction de ce que peut être la grossesse et l'accouchement sous X. Et finalement, le jour où elles accouchent, parfois en voyant leur enfant, elles peuvent complètement changer d'avis. Donc, ça me semble être essentiel qu'il y ait un temps de
On l'a vu, la preuve.
Pauline vous demande si, pendant ce délai de rétractation, justement, il y a beaucoup de femmes qui décident de revenir sur leur décision.
Alors, non, le cas de Manon n'est pas exceptionnel, mais ce n'est pas un cas qui est extrêmement fréquent. On estime qu'il y a entre 10 et 15% des femmes qui reviennent sur leur décision.
D'accord.
Michael vous demande, c'est une bonne question, lors d'un accouchement sous X, la mère peut revenir sur sa décision. Est-ce que le père a son mot à dire?
Oui, alors ça, c'est une bonne question, effectivement, parce qu'en général, le père est l'oublié, le plus classique des accouchements sous X. En général, il y a des pères qui ne sont pas au courant de la grossesse, c'est les cas les plus fréquents. Et dans les cas où les pères sont au courant, ils ont tout à fait le droit de reconnaître l'enfant et ils ont le même délai que la mère, c'est-à-dire 2 mois pour aller dans une mairie, se déclarer en tant que père de l'enfant.
Et ça, dans les faits, ça arrive?
Alors ça, c'est plus rare.
Ouais.
Ouais, ça, c'est quand même beaucoup plus rare que les 10% que je vous ai cités tout à l'heure.
Alison vous demande comment les femmes ou les couples qui prennent la décision d'accoucher sous X surmontent cette épreuve qu'ils vivent généralement dans le plus grand secret.
Alors, parfois c'est dans le plus grand secret, mais parfois, et heureusement assez souvent, c'est partagé avec soit un ami, soit le compagnon quand il est présent, soit des gens de la famille. Donc je pense que il y a vraiment différents types d'options dans les manières d'évoluer. Mm-hmm. Mais ce qui me semble être très important, c'est de dire qu'il y a deux types d'accompagnements qui sont possibles. Vous avez les accompagnements qui sont de soignants, donc en général à l'hôpital, vous avez des psychologues, parfois des psychiatres, des sages-femmes, des pédiatres et des assistantes sociales qui peuvent être très aidants. Mais vous avez aussi le rôle essentiel de l'entourage, et notamment l'entourage familial qui permet de surmonter cette épreuve.
Amandine, est-ce que le bébé peut sentir qu'il a eu un début de vie particulier ? Est-ce que ça peut laisser des traces ?
Alors là, deux questions dans cette question. La première, est-ce que le bébé peut sentir ? Oui, on sait que les bébés, dès les premiers jours de vie, ont une sensibilité extrêmement importante à l'environnement. Et donc, il arrive que parfois, certains bébés qui n'ont pas assez de soins dans les premiers jours de vie développent soit des troubles somatiques, c'est-à-dire des difficultés dans l'alimentation avec un appétit assez faible et des difficultés à prendre du poids, des troubles du sommeil, et dans les cas les plus extrêmes, vous pouvez avoir des dépressions véritables du nouveau-né. Donc ça, c'est ce qui a été décrit depuis plusieurs années déjà, avec notamment un psychiatre assez connu qui s'appelle René Spitz. Donc ça, c'est dans le cadre des symptômes qu'on peut voir dans les premiers jours de vie, mais vous avez aussi la possibilité, par la suite, notamment dans l'adolescence, de laisser des traces avec des questionnements sur les origines et sur l'identité qui peuvent être réveillées.
Et le choix du prénom. Je me dis, quand il y a un changement de prénom, alors c'était que trois jours.
Sujet.
Ouais, c'est mon obsession qui faisait quand il s'appelait Benjamin. C'est difficile de mesurer, même si on peut imaginer que ça aussi, ça peut laisser des traces.
Vous voulez dire que le prénom qui a été choisi, c'est
ça ? Oui, le prénom qui est choisi, alors que c'était un autre qui était les premiers jours de vie.
Alors ça, en général, il n'y a pas de souvenir dans les premiers jours de vie, en tout cas sur cette question du prénom. Et je pense que le délai de 2 mois est bien choisi parce qu'il n'est pas assez long pour que l'enfant ait des souvenirs. À partir de 2 mois, il y a un prénom qui est choisi. Normalement, c'est le prénom qui va rester tout au long de la vie.
Blandine vous demande quel est le profil des femmes qui accouchent sous X et quelles sont les raisons de ce choix le plus fréquemment. Est-ce qu'on peut établir un profil ou pas du tout ?
Alors, un profil psychologique, non. En revanche, on peut dire qu'il y a deux catégories de personnes qui accouchent sous X. Les premières sont des personnes qui accouchent sous X parce que matériellement, elles ne sont pas prêtes à recueillir un enfant. Et les deuxièmes, on peut dire que c'est plus pour des côtés psychologiques ou émotionnels ou des raisons familiales qui ne souhaitent pas avoir un enfant.
D'accord. Est-ce que le déni de grossesse fait partie de ces raisons ?
Alors oui, absolument. Le déni de grossesse, on considère que c'est dans 1 cas sur 2 que des femmes, soit suite à un déni de grossesse qui est complètement total, c'est-à-dire comme Manon, la découverte de la grossesse le jour de l'accouchement, soit un déni qui est partiel et voilà, qui peuvent avoir un accouchement sous X.
Anna, vous avez dû en croiser beaucoup ? Vous avez été confrontée. Moi, je me demande toujours, vous, les professionnels de santé, comment vous vivez ces moments qui sont ces choix, que vous voyez des patientes faire ce choix qui est terrible, difficile ?
Terrible, et c'est vrai que peut-être... Moi, ça a complètement changé mon regard. Ça, souvent, ce que je vois, c'est que c'est des grands actes d'amour. On peut se dire que l'abandon, c'est vraiment des femmes qui sont peut-être sans cœur ou je ne sais pas quoi. Et ce que j'ai vu sur le terrain, moi, au contraire, c'était des femmes qui abandonnaient pour donner de l'amour, au contraire, pour offrir un avenir meilleur à cet enfant.
Et ça fait partie des cas que vous ramenez à la maison, non ?
Dans votre tête, oui, moi je suis très émue par ces scènes de séparation, ces scènes d'adieu.
Et paradoxalement, ce n'est pas extrêmement fréquent, parce qu'on considère qu'en France, il y a entre 800 et 1000 cas par an.
Sur 700 000 naissances, donc c'est très peu.
Ouais.
Christine vous demande s'il existe un accompagnement spécifique lorsque les mères se rétractent après un accouchement sous X.
Alors oui, c'est un accouchement qui est proposé, qui n'est jamais imposé, et en général qui peut être multidisciplinaire, c'est-à-dire avec des psychologues ou des psychiatres ou des pédopsychiatres, des assistantes sociales, mais aussi des pédiatres et parfois des sages-femmes.
Donc quand elles se rétractent et qu'elles récupèrent leur enfant, finalement, est-ce qu'elles sont suivies ?
Alors oui, il y a un suivi, mais à la demande, encore une fois, ou avec l'accord de la patiente. Et l'objectif de ce suivi est de permettre le bon développement de l'enfant. En général, ce suivi peut aller jusqu'aux 3 ans de l'enfant.
Ça, ce n'est pas imposé par le fait que, justement, elle ait été d'abord dans une optique de le laisser ? On ne se dit pas, il faut suivre cette maman ?
Alors, on peut se dire, nous, en tant que professionnels, qu'il faut absolument qu'il y ait un suivi, mais on ne peut pas imposer ce suivi.
D'accord.
Aurélien vous demande qui s'occupe de l'enfant pendant les 2 mois du délai de rétractation.
Alors d'abord, vous avez les premiers jours de l'enfant, durant lesquels l'enfant est pris en charge à la maternité, donc avec des professionnels habituels de maternité. Et puis après, l'enfant est pris en charge soit dans une famille d'accueil spécialisée pour les accouchements sous X, ou sinon dans une pouponnière.
D'accord.
Louise vous demande si on conseille aux mamans qui accouchent dans le secret, enfin en l'occurrence si vous leur conseillez, de voir leur bébé avant de quitter la maternité.
Alors ça, c'est une question difficile. Il n'y a pas de réponse qui conviendrait à tous les profils de femmes qui accouchent sous X. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans cette question, il y a une histoire d'équilibre entre, d'un côté, les besoins de la mère qui sont parfois de voir l'enfant, soit pour pouvoir faire le deuil par la suite, oui, ou sinon pour éventuellement changer d'avis. Et d'un autre côté, vous avez les besoins du nourrisson qui sont celui d'avoir une forme de stabilité au plus tôt possible dans l'environnement. Donc c'est difficile de vous donner une réponse précise. Et je pense que l'équipe soignante et aussi l'entourage familial doit avoir un rôle très important pour aider à faire ce choix difficile.
Et Anna, justement, ça aussi, c'est des choix que vous avez été amenée à accompagner ?
C'est effectivement notre quotidien, enfin notre quotidien non, mais ça arrive très souvent en maternité, effectivement, d'accompagner ces bébés et ces femmes qui parfois vivent parallèlement à quelques chambres de distance et qui pourtant ne vont pas se voir parce que moi, j'ai vu quand même la plupart des femmes disaient au revoir à leur bébé au moment de la naissance, au moment de l'accouchement. Voilà, ouais, ce que j'ai observé, mais après, je sais pas.
Ouais. Et si elles vous demandent conseil ?
Ben oui, c'est-à-dire que c'est très bien dit, c'est-à-dire qu'on essaye quand même de ne pas faire trop d'aller-retour, et souvent les psys qui prennent en charge ces patientes-là essayent de limiter ce nombre de... Mais bon, je crois qu'on fait ce qu'on peut à chaque patiente, à chaque cas, ses particularités.
On l'a vu dans l'histoire de Manon, en fait, elle pensait rentrer chez elle, retrouver son monde et sa normalité, qui évidemment n'était plus la même après cette épreuve. Pour les couples qui décident de placer l'enfant, de le laisser sous X, est-ce qu'ils arrivent à avoir une vie de couple derrière qui ne soit pas marquée par cet épisode ? Est-ce que ce n'est pas trop lourd ?
Alors ça, il faut dire déjà, l'histoire des couples n'est pas la plus fréquente dans l'histoire de l'accouchement sous X. En général, ce sont plutôt des femmes qui sont isolées, soit parce qu'elles n'ont jamais été en couple, soit parce qu'elles ont été en couple, mais le couple s'est délité lors de l'annonce de la grossesse, voire de l'accouchement. Donc il existe effectivement une reconstruction du couple, et là aussi, on peut proposer un accompagnement spécifique dédié, mais on ne peut pas l'imposer.
Qui donne son prénom à un enfant né sous le secret, vous demande Jennifer ? Là, c'est collégial, non ? J'imagine...
Non, pas du tout. En fait, c'est soit la mère, on peut proposer à la mère ou au père de donner un, deux ou trois prénoms. Et dans ce cas-là, le troisième prénom fera office de nom de famille. Et puis après, si la mère refuse de donner un prénom, il y a certaines équipes soignantes qui peuvent souffler des prénoms. Mais théoriquement, dans la loi, en tout cas, c'est un officier de l'état civil qui donne, qui choisit le prénom.
Ah, je croyais que c'était les sages-femmes entre elles qui, non ?
En pratique, c'est moi, c'est ce que j'ai constaté, que c'était souvent les
sages-femmes. Ah oui, d'accord. Vous, ça vous est déjà arrivé de trouver des prénoms ?
Oui. Ouais. Mais c'est effectivement, officiellement, c'est l'officier d'état civil. D'accord. Mais l'officier d'état civil n'étant pas là, forcément, dans certaines maternités.
On le voit dans le film Pupille, je ne sais pas si vous l'avez vu. C'est extrêmement bien expliqué. Alors, Marie-Laure demande pourquoi le délai de réflexion a-t-il été fixé à 2 mois et est-ce que c'est suffisant selon vous ?
Alors, pourquoi 2 mois précisément ? Je ne peux pas vous répondre, ça c'est une question qu'il faudrait poser au législateur. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce délai doit être assez long pour permettre à la femme et au couple éventuellement de prendre une décision réfléchie. Et on voit que dans le cas Manon, il y a eu besoin d'un délai de réflexion. Et d'un côté, encore une fois, il ne faut pas que ce délai soit trop long parce que, en tant que pédopsychiatre, ce que je me dis, c'est que pour le nourrisson, il faut qu'assez tôt, il y ait une forme de stabilité. Donc si c'était au bout de 6 ou 8 mois, ça causerait une nouvelle rupture pour le nourrisson.
Et enfin, Coralie vous demande quelles informations sont données à l'enfant sur ses parents biologiques.
Alors là, vous avez toutes les possibilités. Il est possible de donner aucune information. Ce n'est pas en général ce qu'on conseille. Après, il est possible de donner des informations qui ne sont pas identifiantes, c'est-à-dire qui ne permettent pas à l'enfant d'avoir accès à la reconnaissance précise de la mère. Et puis, d'un autre côté, vous avez des informations identifiantes qui sont données en général sous pli et que l'enfant pourra consulter lorsqu'il atteindra la majorité.
Voilà, merci beaucoup docteur Guetta d'être venu nous voir, docteur Guetta de la Pitié-Salpêtrière à Paris, et merci surtout à Manon d'avoir accepté de raconter son histoire. Voilà, c'est la fin de cet épisode du podcast des maternelles, n'hésitez pas à écouter les autres, il y en a plein d'autres sur tous les sujets, et puis n'hésitez pas à nous en suggérer via les réseaux sociaux. Salut tout le monde, ciao.